Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'agité du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
Je peine à trouver les mots, à raconter la vague d'émotions que peut procurer cet objet qu'est le livre. Pour ceux qui n'y verront que des pages imprimées, sachez qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous donner goût, de vous tendre la main. Quoique la mienne est un peu froide, là maintenant, prenez plutôt celle de mon invité, ou plutôt tendez l'oreille, montez le son de votre radio, puisque pour commencer cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Anne-Sophie Denoux, coordinatrice de projet et programmatrice pour l'association Lavalloise Lecture en Tête. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour Margot. Très belle introduction. Hein.
Merci. On va parler ensemble aujourd'hui de cette saison qui commence avec de bonnes nouvelles, il me semble. En tout cas, évidemment, la curiosité, le plaisir de découvrir avec toi les différents auteurs et même autrices que nous pourrons rencontrer avec vous tout au long de l'année. Ensuite, puisque vous l'attendez, que nous sommes lundi, on retrouvera bien sûr la revue de presse du Haut-Anjou avec les deux titres à la une. Puis comme on parle du Haut-Anjou, eh bien, on va s'y installer et confortablement, puisque ça sera en musique avec un groupe local dont on vous a parlé la semaine dernière. Il s'agit des Icos du cœur que j'ai été rencontrer à Château-Gontier lors du temps fort des semaines d'information sur la santé mentale. On va passer donc un moment avec eux. Et puis on terminera cette émission avec Frédéric Benoît de la Ligue des droits de l'homme pour sa chronique. Et aujourd'hui, il continue avec nous son abécédaire. Mais je vous le disais, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Anne-Sophie Denoux, coordinatrice de projet, programmatrice pour l'association Lecture en Tête. Et bien pour commencer, Anne-Sophie, Lecture en Tête, qu'est-ce que c'est? Pour rappeler à nos auditeurs.
Alors, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1992 pour la promotion de la lecture et de la littérature contemporaine francophone. Alors, pour faire simple, on a un axe événementiel hein, où on a une saison littéraire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le Festival du premier roman et des littératures contemporaines, on a une résidence d'écriture, on a un prix littéraire, et puis on a aussi tout un axe de travail de terrain auprès d'un large, très très large public autour, dans l'accompagnement de la lecture, et cet accompagnement à la lecture, on le fait par le biais de la littérature contemporaine francophone, donc la littérature vivante, celle qui est en train de s'écrire.
Et alors, on n'entrera pas forcément particulièrement dans le détail du festival pour cet entretien, mais il faut savoir qu'en fait, il rayonne quand même particulièrement large sur le territoire national.
Oui, c'est notre vitrine, c'est vraiment l'événement phare. Et on a hâte hein, chaque année de retrouver cette nouvelle édition qui en 2025 se déroulera au 40, c'est la nouveauté. Et on espère accueillir un public encore plus nombreux.
Et alors, cette nouvelle saison dont on va parler là maintenant, quelle est son identité, quelle est sa patte peut-être pour cette nouvelle année qui commence?
Alors déjà, les féminines. Très féminine, puisque nous n'invitons que des autrices. Alors, c'est le fait du hasard, hein. C'est pas quelque chose qu'on a voulu. On n'a pas voulu surfer sur une tendance ou quoi que ce soit. Ça s'est imposé à nous naturellement, dans notre suivi d'auteurs. Donc, le suivi d'auteurs, ce sont des auteurs qu'on avait repérés pour leur premier roman et que l'on suit dans le cadre d'une actualité littéraire. C'est le cas pour Carole Martinez, par exemple, qui viendra au mois de juin l'année prochaine. Et puis, on a aussi eu cette saison s'est construite aussi avec des partenariats ou des opportunités qui ont fait que on invite cinq autrices cette année et avec des sujets forts. Je pense qu'on va en parler au fur et à mesure.
Exactement. Alors cette saison commence avec Elsa Jonquet-Kornberg, pour pas dire de bêtises, j'aime pas écorcher les noms. Donc ça commence dès maintenant, en fait, là ça arrive tout de suite.
Oui, alors Elsa Jonquet-Kornberg, elle vient en résidence d'écriture en Mayenne, elle est logée à Laval, on va l'accueillir 3 mois, mais ces trois mois vont être fragmentés entre novembre et le mois de mai 2025, donc elle vient par plusieurs périodes. Elle vient pour écrire son deuxième roman, donc son premier, pour ceux qui connaissent, il y aurait La Petite Histoire, qui a été publié en 2022 et pour lequel elle est venue à notre festival en 2023. Et là, elle vient écrire son deuxième roman qui est un roman sur la filiation, sur un meurtre aussi. Et c'est sur fond d'enfouissement de déchets nucléaires. Et le territoire mayennais était très intéressant pour elle puisqu'il y a eu justement tout un mouvement de lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires dans les années 2000 du côté de Baie à Isée. Et elle espère en fait pouvoir rencontrer des habitants, des personnes qui ont connu ce mouvement-là, pour l'aider à écrire, enfin en tout cas pour se documenter et pour poursuivre l'écriture de ce deuxième roman.
Et alors des causeries littéraires sont organisées ?
Oui, il y aura 5 ou 6 causeries tout au long de la résidence, hein, sur ces temps de période, un peu partout sur le département. Hein. Bien entendu à Laval, mais aussi on va être à Château-Gontier, à Évron, au Genest-Saint-Il, à Gouron. Et puis, en fait, en parallèle de son temps d'écriture, de création pour lequel elle est présente, elle va proposer, enfin, chaque auteur en résidence propose des animations que l'on construit ensemble, mais c'est des souhaits proposés par les auteurs invités. Et Elsa a proposé, elle, surtout des ateliers d'écriture. Donc, il y en a deux qu'on va retrouver tout au long de sa résidence. Un sur le collectif et la place de l'individu dans le collectif. Et puis, il y aura un autre atelier d'écriture intitulé « Incipit » sur la première phrase, la première page. Voilà, quand on se met à écrire...
Et alors ces différentes autrices qui vont donc venir, je parle d'autrices cette année puisque finalement ça c'est, tu le disais toi-même, elles n'ont pas été choisies parce que ce sont des femmes, mais par rapport à ce qu'elles proposent, comment est-ce que toi en tant que programmatrice tu fais le choix justement de ce qui va avoir lieu cette année ?
Alors parfois ça nous tombe dessus et c'est presque une évidence, ça a du sens, alors sur le coup on ne sait pas toujours pourquoi, enfin je devrais peut-être pas dire ça. Mais
non, mais c'est le sensible aussi, voilà, qui parle et c'est important de le dire comme ça.
Mmh. Alors là cet automne et cet hiver on va accueillir deux autrices, donc Sophie Géluca pour son premier roman Mississippi. En fait Sophie Géluca devait venir au dernier festival en 2024 et puis pour des raisons personnelles elle a annulé sa venue au dernier moment, donc c'est toujours dommage pour nous de ne pas rencontrer ces primo-romanciers, primo-romancières que l'on sélectionne parce qu'on a besoin de créer du lien avec eux, parce que c'est eux après qui reviennent en résidence, c'est eux qui seront dans le prix littéraire du deuxième roman. Voilà, donc on a besoin de créer du lien avec eux. Et donc Sophie Géluca, on l'invite pour parler de ce magnifique et poétique premier roman Mississippi. Lisez-le. Voilà, enfin vous pouvez même venir la rencontrer sans l'avoir lu, mais c'est un très beau roman.
Ça sera en décembre.
Ouais, ce sera en décembre. Il y aura une rencontre à l'Huisserie et à Gouron, donc les 13 et 14 décembre. Et puis, alors Sophie Géluca, comme Ruth Zilberman, dont je vais parler après, mais ces deux autrices nous parlent de ces ordinaires qui ont traversé la grande histoire, nous parlent aussi de transmission. De transmission de la mémoire, de transmission de l'histoire, hein, de nos histoires à la fois individuelles et collectives, et puis aussi ce qu'on se transmet ou pas d'une génération à l'autre. Et c'est là, avec le recul, des fois on se dit, ah, ça fait sens, en fait, les deux vont aborder ces mêmes thématiques. Et pour Ruth Zilberman, qui sera là au mois de janvier, donc c'est une proposition, une carte blanche d'Elsa Jonquet-Kornberg qui est en résidence. Et on est sur... Ruth Zilberman, elle est documentariste et écrivaine. Et elle a réalisé en 2018 un film documentaire qui s'intitule « Les enfants du 209 rue Saint-Maur » qui parle d'un immeuble sous l'occupation, d'un immeuble dont un tiers des habitants étaient juifs, un immeuble qui a connu les rafles. Et en fait, elle fait toute une enquête autour de cet immeuble pour retrouver, alors en 2015, 2016, 2017, donc avant que le documentaire soit monté, elle fait toute une enquête pour retrouver ces enfants qui ont été sauvés, qui sont maintenant partout dans le monde, qui ont très peu de souvenirs puisqu'ils étaient vraiment gamins à l'époque. Et elle reconstitue en fait cette communauté, cette vie communautaire à cette époque. Et puis la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a moins de 100 ans, c'est récent, et il s'est passé des choses qu'il serait bien de ne pas reproduire, et c'est toujours important de rappeler ça, parce que c'est pas si vieux.
Est-ce que je ne sais pas si ma question là est plutôt une question facile, mais est-ce que les femmes ont des sujets ou des manières d'aborder certaines thématiques qui aujourd'hui, est-ce qu'elles le font avec un autre regard, avec un autre point de vue, ou est-ce que pas forcément c'est...
Alors là, avec le recul, il faudrait beaucoup de recul pour ça. Mm-hmm. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce que nous, on constate à Lecture en Tête, puisque l'association a plus de 30 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes publiées. Nous, dans nos sélections de premiers romans, on a de plus en plus de femmes qui sont sélectionnées, parce qu'il y en a de plus en plus publiées, hein, c'est ça aussi. Il y a forcément une sensibilité, mais on connaît aussi des auteurs hommes qui arrivent très bien à se mettre dans la peau aussi de personnages féminins. Mais il y a forcément une sensibilité. Je sais que que ce soit pour Sophie Gélucas comme Ruth Zilberman, ça touche à leur histoire personnelle. Sophie Gélucas, c'est presque une généalogie. Elle a remonté toute l'histoire familiale. Et c'est ses ancêtres dont elle parle. Et puis pour Ruth Zilberman, donc je parlais de ce film documentaire, mais son premier roman, La direction de l'absent, qu'elle a publié en 2015. Dans ce roman, en fait, elle raconte l'histoire de sa famille déportée. Donc voilà, ça, les deux font écho, voilà, à leur histoire individuelle, familiale, mais qui s'inscrit dans cette histoire collective.
Et alors, donc, il y a différents temps de programmer des rencontres, des ateliers que vous proposez. J'allais dire au Lavallois, mais en fait, au Mayennais. En général, ce qui est bon de préciser, c'est que c'est gratuit.
Tout est gratuit.
Tout est toujours gratuit. J'ai toujours, je le dis timidement parce que c'est étonnant, mais c'est une chance qu'on a sur le territoire d'avoir accès à tout ça gratuitement. Ce qu'il faut, c'est s'inscrire, penser à s'inscrire.
Alors, pour, je sais que par exemple, pour les ateliers d'écriture avec Elsa Jean-Kalkenberg, il faut s'inscrire auprès des bibliothèques et médiathèques qui proposent cet atelier. Donc, toutes les infos, vous pouvez les retrouver dans notre programme ou sur notre site internet lectureentête.fr. Mais tout est gratuit, comme les rencontres. Il n'y a pas besoin d'être adhérent pour venir assister à une rencontre d'auteur. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le livre, je le disais tout à l'heure. Ce sont des auteurs contemporains, de la littérature contemporaine, avec un regard porté sur notre société d'aujourd'hui. Donc déjà, voilà, ça parle à tout le monde. Et bien entendu, il y a toujours l'approche littéraire sur voilà, comment l'auteur a voulu traiter l'histoire, comment il l'aborde, comment il nous la raconte. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir lu avant, on peut lire après ou pas du tout, mais au moins venir écouter ce qu'un artiste propose, un écrivain est un artiste, et le regard qu'il pose voilà, sur la société d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'une causerie littéraire pour l'auditeur de l'autre radio qui ne saurait pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est une rencontre qui dure une heure et demie autour du roman ou de l'œuvre d'un ou d'une auteure invitée. On n'est pas sur de la conférence ou de l'analyse littéraire scolaire. Mm-hmm. C'est vraiment aborder les thématiques qu'on trouve dans le roman, mais aussi le parcours d'écrivain, où le public a toute sa place. Le public peut intervenir quand il le souhaite, mais il n'est pas obligé d'intervenir. Voilà, la même chose que quand vous allez voir un film au cinéma. Vous vous installez, vous regardez le film, ben là vous vous installez, vous écoutez. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de vous lever et de partir. Voilà aussi. Donc c'est quelque chose de simple, ça peut faire peur. Voilà, mais c'est justement Lecture en Tête essaye de dépoussiérer l'image qu'on peut avoir de la littérature et de la rencontre d'auteurs. Voilà, on fait les choses simplement et dans notre programmation, que ce soit pour la saison ou pour le festival, on essaye d'avoir une grande diversité et une grande mixité aussi dans le public qu'on souhaite toucher. Quoi.
Et je pense que ce qu'on peut dire aussi à l'auditeur de l'autre radio qui ne serait pas forcément lecteur, mais qui a un peu cette curiosité qu'on viendrait peut-être titiller dans cette émission aujourd'hui, bah, c'est finalement, en entendant parler un auteur, je me dis, c'est déjà une première porte souvent d'entrée avant d'avoir envie d'ouvrir son livre. La sensibilité se ressent déjà dans sa manière d'en parler, je trouve.
Ah oui, tout à fait. Tout
c'est
à
important,
fait.
C'est une chose. Bien, merci beaucoup. On peut rappeler peut-être les premiers rendez-vous, Anne-Sophie, à l'auditeur de l'autre radio.
Eh bien, il y a la résidence qui démarre au mois de novembre avec notamment des ateliers d'écriture et des rencontres littéraires. Et puis Sophie Gélucas les 13 et 14 décembre. Et Ruth Zilberman qui viendra. Alors, il y a la projection de son film documentaire le 16 janvier à l'avant-scène à Laval. Et l'auteur nous rejoindra le 23 janvier pour une rencontre à la fois autour de ce film documentaire et de son premier roman. Et voilà, on est sur un combo littérature, cinéma et histoire.
plusieurs manières de raconter, mais toujours avec la sensibilité d'une autrice. Et alors, on peut rappeler à l'auditeur de l'autre radio qu'on vous retrouve de toute façon une fois par mois pour avec l'émission Lecture en tête à tête. Ça se passe le deuxième jeudi de chaque mois à 13h, Anne-Sophie.
Oui, c'est bien ça.
Donc ça permet de découvrir les auteurs. C'est un échange toujours très très agréable autour de l'œuvre. Et on peut déjà avoir une première approche, une première manière de creuser ce qu'un auteur propose.
Oui, et puis ben voilà, les trois autrices dont on a parlé là seront bien entendu au micro d'un de nos bénévoles pour ces prochaines émissions Lecture en tête à tête.
En tout cas, merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci
pour
Margot.
Commencer cette semaine, c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans l'émission. Et alors, pour commencer la semaine, quand il fait un peu froid comme ça, qu'on a tous du mal à se mettre dans le travail, dans tout ce qui nous attend, eh bien, j'avais envie de vous amener un peu de tendresse. Et alors, celui qui le raconte particulièrement bien, c'est Bourvil. Écoutez.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Non, 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 le temps paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour. Jusqu'à la fin des jours.
Du lundi, du vendredi au lundi, l'attente est évidemment beaucoup trop longue pour l'auditeur de l'autre radio. C'est pour ça que je vous le rappelle, votre hebdomadaire Le Haut en Joue est disponible chaque vendredi matin au kiosque. Il est possible de vous le procurer avant le retour de la JT le lundi, qui vous parle évidemment des titres à la une. Et alors cette revue de presse nous emmène d'ailleurs dans le village de Saint-Sulpice, puisque la coutellerie du Maine en Joue y installe son atelier de fabrication au cœur du village. Ce déménagement dans le nouveau bâtiment de 360 mètres carrés aux deux chemins de la Gendronnière est un projet qui mûrissait depuis 3 ans maintenant. Alors, ce nouvel espace, vous pourrez bien sûr le visiter, précise le gérant Antoine Faucheux. Et il espère d'ailleurs que cela puisse se faire avant Noël. On continue et termine cette revue de presse à Cran avec une belle action, car d'anciennes baskets aideront des enfants atteints de cancer. Et oui, pour la première fois, le Natural Trail du 27 octobre s'associe à l'opération Toute Pompe Dehors. Le but étant de collecter d'anciennes chaussures de sport qui permettront de financer des séjours à la neige à des enfants hospitalisés et souffrant de cancer. Alors vous retrouverez bien sûr tout le détail et l'ensemble des actualités du Haut-Anjou dans votre hebdomadaire en version papier ou en version numérique sur le site internet du Haut-Anjou. Et voilà, on continue maintenant, mais en musique, avec un groupe local dont vous avez entendu parler la semaine dernière dans cette émission. Souvenez-vous, Pierre Guillavarche, éducateur spécialisé au geste, nous parlait du concert des Icos du cœur qui allait avoir lieu lors du temps fort des semaines d'information à la santé mentale. Eh bien, je n'ai pas voulu manquer ça. Écoutez, Mathieu, Sarah, Jess et Jordan nous en parler aux côtés de Pierre qui les accompagne.
On suit avec une chanson qui s'appelle « Roi du blues », écrite par Mathieu.
Le groupe est né d'une demande individuelle de Mathieu de refaire du blues. Et en fait, petit à petit, d'autres personnes se sont greffées. On a fait un petit peu de blues tous les deux. Et puis d'autres personnes sont venues voir ce qu'on faisait. C'est devenu un groupe assez rapidement, en fait, dès la première année. Et ça fait 8 ans que ça existe. Tout le monde n'est pas là. Il y en a qui n'ont pas pu venir à l'événement aujourd'hui. C'est un groupe qui reste ouvert avec des personnes qui rentrent, qui sortent. Il y a un noyau dur qui est là depuis le début, Mathieu, Jordan, Sarah qui est là depuis très longtemps aussi. Le principe c'est qu'ils écrivent eux-mêmes leurs textes. Alors c'est essentiellement Mathieu et Sarah qui écrivent les textes. Et puis on se voit tous les jeudis sur Laval, tous les jeudis après-midi pour mettre les textes en musique ensemble. Et puis on organise aussi des petites prestations comme aujourd'hui là, au long de l'année quoi. Sur des scènes différentes, on joue dans des assos, on joue aussi dans des EHPAD, dans des cafés associatifs, sur des marchés bio, enfin des choses qui ont du sens, on va dire, pour nous quoi.
La chanson suivante s'appelle Un jour.
Jordan, vous m'avez dit que la première fois que vous êtes monté sur scène, c'était à la Voix de Garage à Olivet. C'était plutôt stressant ou ça va ?
Ça allait. Franchement, pour moi, ça va.
Et alors, je me pose la question, comment est-ce que vous travaillez tous ensemble ?
Ça se passe lors des répétitions. Quelqu'un amène un texte et puis Pierre ou Vincent amène une musique et on essaie de faire un mix avec les deux.
Alors, les Icos du cœur, on m'a dit que c'était plutôt du blues, du rock.
On a fait aussi beaucoup de balades aussi ces temps-ci et la folk, ouais.
Surtout du blues et du rock, et du coup, comme l'a dit Mathieu, Vincent et puis Pierre, ils amènent leur guitare et puis on essaie de mettre tout ça en musique et de trouver le rythme pour les paroles aussi.
Si on en vient aux paroles, Sarah, vous écrivez des textes. Comment vous vient l'inspiration ? Comment est-ce que ça se passe pour vous, l'écriture ?
Les choses qui me viennent, c'est plutôt autour de ma famille en général. Plutôt des gens face à la mort, face à la vie, des choses assez courantes, mais qui sont importantes pour moi. Émotionnellement parlant, oui, pour moi, ça me touche en fait.
Il y a certaines chansons qu'on a pu chanter pendant plusieurs années, qu'on ne chante plus aujourd'hui, parce que ces chansons-là n'ont plus forcément de sens aujourd'hui pour celui ou celle qui les a écrits. Donc ça évolue, quoi. On essaie de respecter un peu le désir de chacun. Voilà.
On chante tous sur les chansons, en fait. Toutes les chansons. Il y a des chansons dynamiques, il y a des ballades, comme ça a été dit. Et c'est assez divers, en fait, c'est très varié.
Et alors, parmi les titres que vous chantez, il y a le blues du Petit Louis.
C'est une des premières chansons du répertoire, ça, que Mathieu avait écrite en hommage à son neveu, qui s'appelait Louis. Donc, c'était le Petit Louis il y a 8 ans. Aujourd'hui, il doit être un petit peu plus grand.
Il a 9 ans et c'est important de la passer à sa naissance de faire une chanson sur lui. Et ça m'a inspiré. Et,
Mettre en musique ou en texte des choses qui comptent pour vous, c'est important.
Ouais, ça me fait du bien. Ça, c'est un exutoire. C'est...
Le fait de le partager aussi.
Ça fait du bien aussi, oui.
Et vous, Jordan, est-ce qu'il y a un texte qui vous plaît particulièrement, par exemple ?
Moi, j'adore Partir avant l'hiver, parce que j'ai mon propre solo dessus. Ils disent une phrase, et moi, je dois répondre en décalé un petit peu. Je réponds en décalé, je me fie au son de la guitare, et puis après, bah, je me lance.
Qu'est-ce que vous espérez transmettre au public quand on vient à vos concerts ?
Pas forcément pleurer, parce que bah, des fois, moi, il y a des chansons qui m'émeuvent tellement que des fois, ça me fait pousser les larmes aux yeux. Mais les toucher, tout simplement, donner des frissons.
Sur les morceaux qui sont proposés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux autobiographiques ou qui sont liés un peu à l'environnement proche des personnes. Mais il y a aussi des textes liés à des sujets plus généraux, des sujets de société, des choses. Je pense à un texte notamment que Mathieu avait écrit par rapport à la Syrie au début du groupe, là, qui s'appelle « Le blues d'Alep », qui est une très très belle chanson. Moi, je crois que j'ai un coup de cœur pour celle-là depuis des années, même si toutes les autres, je les aime beaucoup. Mais voilà, c'est aussi une vision du monde qu'ils peuvent avoir, des choses qui les touchent. Dans l'actualité, des questions qui touchent un peu l'humanité, quoi, un peu universelle. C'est vrai que la musique, ça permet de parler de ces choses-là aussi. Il y a des choses sombres et il y a des choses beaucoup plus gaies, comme le disait Sarah. Et on essaye de faire vivre un peu tout ça, de le partager avec le public, quoi.
Lorsque je réécoute quelques-unes de tes chansons, mes premiers mots de doute, j'ai souvent des frissons.
Et vous, Pierre, j'imagine que vous y mettez aussi votre propre émotion.
Je me limite à l'accompagnement musical, je ne chante pas avec eux. Vincent non plus, on est vraiment là pour l'accompagnement à la guitare, quoi. C'est un partage, quoi. Enfin, c'est suivant le thème de la chanson, souvent je propose une mélodie, et puis, ou plusieurs mélodies, et puis, mais c'est eux qui m'orientent et qui me guident en disant le ton qu'ils veulent mettre à la chanson, si c'est grave, si c'est plutôt gai, si c'est... dynamique ou plutôt calme, voilà. Donc on se met tous d'accord à chaque fois sur tout ça, quoi. C'est un vecteur de communication, la musique, hein, comme beaucoup d'autres choses, l'expression corporelle ou le chant, ça permet d'exprimer des choses peut-être plus facilement, en fait, qu'on le ferait sans ça, quoi. Comme disait Mathieu, c'est un exutoire, hein, c'est quelque chose qui permet de se libérer, parce qu'on n'arrive pas à se libérer de certaines choses autrement, et la musique le permet. Donc, nous, c'est notre truc, hein, c'est notre point commun d'utiliser la musique comme ça. Même moi, hein, quand ça ne va pas, j'aime bien jouer, ça me fait du bien. Là, on est sur un événement aujourd'hui, en plus sur le bien-être et la santé mentale. Donc, c'est un des nombreux supports qui existent pour aller mieux. Voilà, il y a la musique, mais il y a aussi le fait d'avoir cette cohésion qu'on a entre nous. Il y a une sorte d'identité de groupe qui se crée au fil des années. Une sorte de complicité aussi, quoi. On rigole beaucoup pendant les répètes. Enfin, voilà, c'est... C'est une petite parenthèse chaleureuse, quoi, dans la semaine. On met un peu les problèmes entre parenthèses tous les jeudis aux répétitions. Et quand on fait des concerts comme ça, quoi, c'est toujours, y a toujours un peu de stress au début. Plus ou moins suivant les personnes, hein, parce qu'on a tous nos sensibilités. Mais au final, quand on termine un concert, on est toujours très content de l'avoir fait.
Lorsque je réécoute quelques-unes de tes chansons, mes moments de doute, j'ai souvent des frissons.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et nous y voilà, le lundi, tous les 15 jours, un des membres de la Ligue des droits de l'homme me rejoint en studio pour sa chronique. Bonjour Frédéric Benoît. Donc aujourd'hui, on continue votre abécédaire. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler ?
Alors aujourd'hui, c'est la lettre M, M comme migration. Parler des migrations, c'est un des enjeux majeurs de ce siècle. On voit dans les discours qu'il en est souvent question, pratiquement exclusivement dans les discours politiques. Alors de fait, hein, l'Europe est devenue l'une des plus importantes régions d'immigration au monde depuis le début de ce siècle. Bon, compte tenu de sa position géographique, de son histoire et aussi de son image quant au respect des droits de l'homme. Alors pourquoi ? Il y a des crises qui se sont succédées. Hein. On se souvient des révolutions arabes de 2011 avec ses contre-coups en Tunisie, en Libye, en Égypte. La guerre civile syrienne en 2015, l'invasion de l'Ukraine en 2022. L'Union européenne est face au plus grand mouvement de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces crises ont révélé des lignes de fracture au sein même de l'espace européen et des pays qui le constituent. La politique migratoire est marquée par un accroissement de la montée des populismes qui véhiculent la peur et le rejet de l'autre. Alors c'est vrai, oui, en 2015, l'Europe connaît une augmentation conséquente des arrivées de personnes migrantes. Maritime, on le sait, on a vu les drames. La Méditerranée est qualifiée de cimetière marin. Bon, le chiffre est impressionnant, hein, il ne faut pas cacher le chiffre, c'est 1 million d'arrivées en 2015. Mais si on ramène ça à la proportion de la population européenne, ça ne fait que 0,25% de la population européenne. Donc, est-ce qu'on peut absorber 0,25% de la population européenne ? Ben oui, quand même. Bon alors, malgré tout, les termes de crise migratoire est repris un peu partout dans les milieux médiatiques et politiques et permet de justifier un durcissement des politiques migratoires.
Alors, est-ce que cela concerne la France également ?
Hélas, oui. La France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, n'échappe malheureusement pas à ce durcissement. On se souvient tous, en tout cas les gens de ma génération se souviennent de cette phrase « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », nuancée plus tard par « Mais elle doit en prendre fidèlement sa part ». Mais qu'est-ce qu'il en est exactement ? Derrière cette phrase, il y a l'image d'une immigration massive, certains jouant sur la thématique de l'invasion, voire du remplacement, faisant de la présence des étrangers sur le sol français une menace identitaire, culturelle, économique et sécuritaire. Bon, pourtant, la réalité, ce n'est pas celle-là. La France n'accueille pas et n'a jamais accueilli toute la misère du monde. Je reprends les exemples de tout à l'heure, de la Syrie et de l'Ukraine. 6 millions de Syriens ont quitté leur pays lors de la guerre civile. 6 millions. La France en a accueilli 35 000. Les Ukrainiens, 4 millions de migrants. La France en a accueilli 110 000. Bon, on est loin d'accueillir toute la misère du monde. Et en plus, il faut signaler que les réfugiés, le plus souvent, se retrouvent pour la plupart dans les pays les plus proches de chez eux. Alors l'Iran et le Pakistan ont accueilli des Afghans, la Syrie a accueilli les Irakiens, la Turquie et le Liban les Syriens, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie les Ukrainiens. Pourtant, ça se durcit. Le 26 janvier 2024, une loi dite pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est promulguée. On est loin d'une France terre d'asile. Bon, l'ensemble des mesures adoptées révèle toujours la même obsession, celle du contrôle de l'immigration, ignorant le fait que l'immigration font partie de l'histoire de l'humanité et qu'elles ne pourront jamais être endiguées ou contrôlées comme certains l'espèrent et le prétendent.
Et alors, quelles sont ces mesures ?
Alors, il y a une structure qui s'appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a dorénavant l'obligation, et non plus la possibilité, comme c'était précédemment dans le texte, l'obligation de refuser ou de retirer les conditions matérielles d'accueil. Il s'agit des allocations pour les demandeurs d'asile et la possibilité d'être hébergé lorsque les conditions légales sont remplies. Auparavant, un autre exemple, si la personne exilée quittait le lieu d'hébergement qui lui était assigné, elle perdait les conditions matérielles d'accueil. Maintenant, en plus de perdre ses conditions matérielles, elle sera aussi sanctionnée sur le fond de la demande d'asile. Donc plus de titre de séjour, demande d'asile clôturée. Autre chose, la possibilité d'assignation à résidence et de placement en rétention pour la personne en demande d'asile, si elle constitue une menace pour l'ordre public. Alors cette menace pour l'ordre public n'est pas définie dans le texte. On ne sait pas de quoi il s'agit. Alors cette mesure pourrait conduire au placement en rétention de personnes venant d'arriver sur le territoire français sans avoir eu l'occasion de se rendre dans une préfecture. Il y a aussi dans les mesures la généralisation des jugements de la Cour nationale du droit d'asile par un magistrat unique. Avant, il était question d'une collégialité qui permettait aussi d'éviter le regard partial sur la situation. La loi durcit les conditions d'accès à un titre de séjour, elle multiplie les obstacles. Donc, je me répète, mais nous sommes loin de l'idée de solidarité et d'hospitalité.
Comment se positionne la Ligue des droits de l'homme par rapport à ces mesures-là ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme et certains de ses partenaires, membres d'une coordination qui s'appelle la Coordination française pour le droit d'asile, ont décidé d'introduire des recours en annulation contre 6 décrets d'application de la loi Asile et Immigration. Mais bon, quel que soit le résultat de ces recours, le plus grave est que cette loi, ces mesures et le discours posé sur ces mesures tendent à valider dans l'imaginaire des citoyens cette association systématique que l'immigration et délinquance sont la même chose, hein, qu'il y a une assimilation entre délinquance et immigration. Dans le texte de loi, plus de la moitié du texte concerne la rétention, concerne le jugement, le recours. Cette loi est marquée par le sceau de la xénophobie. Alors je reviens à l'Ukraine. L'exemple des Ukrainiens est assez déroutant parce que l'Union européenne leur a appliqué une directive dite de protection temporaire qui datait de 2001. Alors ce statut temporaire évite la durée de la procédure d'asile, leur permet de travailler immédiatement et elle permet de mobiliser les collectivités territoriales et elle permet l'accès à des logements sociaux et à des soins immédiats. Donc là, on ne comprend pas, quoi, c'est pas la même chose. Cette protection temporaire est d'ailleurs prolongée jusqu'en mars 2025. Elle dure toujours, quoi. Que dire sur cette comparaison ? Les Syriens n'ont pas bénéficié de ça. Donc il y a une xénophobie, mais en plus une xénophobie discriminante. C'est-à-dire que tous les peuples ne sont pas regardés de la même manière. Il faut rappeler ici que ce n'est pas par plaisir que tant d'hommes et de femmes quittent leur pays. C'est un parcours extrêmement violent de quitter un lieu qui est violent par un système politique de dictature, par les guerres. Et en plus, il faut traverser un continent, traverser une mer. C'est pas joyeux d'immigrer. Il faut répéter que l'immigration continuera. Les humains ont toujours bougé. Ils ont toujours bougé et vous pouvez mettre des murs, des barrières, tout ce que vous voulez, vous n'empêcherez jamais l'immigration. Les gens qui n'ont rien vont aller vers les lieux où il y a tout. Alors qu'on peut, mettre des voies légales, on peut mettre des restrictions. Il vaudrait mieux penser à des politiques d'accueil dignes pour tous et toutes, même si elles demandent du courage politique. Ce serait une solution plus pérenne pour le respect des droits des personnes exilées et pour la société. Alors je renvoie les auditeurs au podcast sur identité, car il fait écho à cette histoire des migrations, hein, sur les représentations qu'on peut avoir chacun.
Et donc on peut le retrouver sur l'autreradio.fr. Merci beaucoup Frédéric Benoît.
Merci Margot.
L'agité du local s'arrête ici. Merci à Anne-Sophie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de la nouvelle saison de l'association Lecture en Tête. Merci beaucoup également à Frédéric Benoît pour sa chronique. L'agité s'arrête, mais ça continue sur nos ondes avec Solénoïde que vous écouterez à 19h pour vous offrir un mix transversal de musique peu banale. Ensuite, à 20h, vous écouterez la discothèque de Morgane pour rester musicale. Alors moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons en compagnie de Julie Aubry du 6x4 qui nous parlera du projet Fait Main. Et donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, réchauffez-vous et vous le savez, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben c'était bien, hein.